une autre chanson de Serge, également interprétée maintenant il y a 50 ans par Dalida, dont le titre est « Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vous en fais écouter un petit extrait. Je voudrais d'abord signaler en préambule que le mot « pourquoi » se dit en hébreu « lama », comme le nom du compositeur de ce titre. Est-ce qu'il aurait des ascendants juifs cachés? Les deux syllabes de ce mot signifient « pourquoi », « vers quoi », « dans quel but », essayant de trouver un lien entre l'origine des choses et leur destination. On voit donc le L de là, qui veut dire pour, vers, et ma, c'est quoi, et deux, c'est l'origine. Donc on va de l'origine vers la destination. Ce titre que j'ai choisi pour cet exposé est la traduction d'une phrase qui est prononcée par deux grandes figures juives de la Bible, le roi David et Jésus. Qui seront les protagonistes de la soirée. Dans quel contexte historique l'un et l'autre ont-ils été amenés à prononcer ces paroles de désespoir? Que signifie abandonner? Quelle est l'étymologie de ce terme et de ses traductions en hébreu? Quelles sont les conséquences sociales de l'abandon et les raisons qui peuvent nous pousser à abandonner une religion? Et pour terminer, quels sont les aspects positifs de l'abandon? Voilà autant de questions auxquelles je répondrai certainement par d'autres questions, puisque c'est le propre des Juifs, mais je ferai de mon mieux pour vous donner humblement quelques pistes de réflexion. Eli, Eli, lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Nous dit David en hébreu dans le psaume 22, en s'adressant à l'Éternel, à l'instar de ses ancêtres. Chacun d'eux avait placé leur confiance en Dieu et avait reçu leur salut en se courbant devant lui, en s'humiliant au sens premier du terme. Et ainsi, David implore et s'exclame « Que votre cœur renaisse à la vie pour toujours. » Nous lisons ce psaume chaque année au moment du jeûne d'Esther. En ce jour, on renonce à se nourrir et à s'abreuver pour nous souvenir que cette privation avait permis au peuple juif d'être entendu par Dieu et d'être sauvé du péril d'extermination qui le menaçait. On parle dans ce cas de Ta'anit, car nous avons été exaucés. On a demandé, on a été entendu. Mais d'autres événements bibliques marqués par des dissensions internes du peuple juif, Dieu est resté sourd à nos prières, malgré le jeûne, nous faisant percevoir un véritable abandon de sa part. On traduira dans ce cas le mot « jeûne » par « psaume », car Dieu s'est rétracté face à la discorde de son peuple désuni. On appelle ça le « tsimsum ». C'est ainsi que chaque année, nous jeûnons pour commémorer l'assassinat politique de Guédalia par l'un des siens, qui s'est suivi de la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor II. Pour en venir à David, avait-il des choses à se reprocher et à se faire pardonner pour s'adresser ainsi à Dieu? A priori, c'était plutôt un mec bien. Ce jeune berger était sensible aux douleurs des gens. Il avait su se montrer très valeureux à de nombreuses occasions. Ainsi, il avait pu soulager les souffrances du roi Saül en jouant de la musique et venir à bout du géant Goliath avec sa fronde. C'était également un chef de guerre, puissant et stratège, amassant des victoires contre les peuples qui l'entouraient, conquérant Jérusalem et permettant le retour de l'Arche Sainte dans le royaume d'Israël. Si on dissèque les lettres du roi David, du nom David, on peut dire que c'est la conjonction, c'est le vav, de deux dalettes. On retrouve la lettre dalette dans les mots yodéa, connaître, lomède, apprendre, moded, mesurer, date, la loi, dan, le juge, yehudi, le juif. Tous ces mots ont en commun la notion de connaissance. On retrouve aussi le dalette dans le mot toda, qui veut dire merci, mot qui témoigne de la reconnaissance vis-à-vis de son prochain ou vis-à-vis de Dieu. Les premiers mots de notre prière du matin sont « Modé ani lefanera »« Je rends grâce devant toi ». De même, lorsque nous récitons debout la Amida, nous nous inclinons en récitant la bénédiction de la reconnaissance « Modim anachnu lach ». En tant que Yehudi, à l'image de David, nous avons le devoir d'avoir la connaissance, mais aussi la reconnaissance. À ce propos, je rappelle que le mot « commerce » signifie qu'on se dit chacun à l'autre « merci », l'un pour avoir cédé un de ses biens, et l'autre pour lui avoir donné de l'argent en échange de ce bien. Commerce. Go merci. Si on lit le nom David sans les voyelles, ça le donne Dod, qui signifie oncle, au sens de bien-aimé. Ainsi, chaque vendredi soir, à la tombée de la nuit, nous chantons un cantique qui s'appelle l'Eradodi, qui veut dire va mon bien-aimé, en parlant de Shabbat, qui est décrit comme la fiancée qu'il faut accueillir. L'Eradodi est probablement un des rares cantiques à ne pas avoir été composé par David, qui est à l'origine de très nombreuses prières, appelées des psaumes, et que l'on chante toujours dans les synagogues, mais aussi dans les églises. David était bien aimé, surtout par les femmes, dont il essaiera de satisfaire les désirs et dont il aura 22 enfants au total. Il aura notamment une relation consentie avec Bethsabée, l'épouse d'un de ses généraux, Uri le Hittite, qui était très belle et qui s'est retrouvée enceinte. Et pour ne pas éveiller les soupçons du mari, David a offert à ce dernier une permission pour retrouver son épouse. Mais Uri n'a pas voulu une telle faveur. Donc, David s'est retrouvé coincé et en dernier recours, il a envoyé Uri dans une bataille où il avait peu de chances de s'en sortir et de fait, ce dernier meurt au combat, laissant le champ libre à David pour épouser officiellement Bethsabée, mère du futur roi Salomon. Dieu lui en fait le reproche de ce stratagème par l'intermédiaire du prophète Nathan qui lui annonce le décès de leur futur fils aîné. Il peindra également son fils Absalom, qui avait fait tuer son demi-frère aîné Amnon pour avoir violé sa sœur Tamar à la suite de querelles pour la succession du trône. Vous voyez, quand ça se met, ça ne plaisante pas. David, le bien-aimé, n'est donc pas exempt de fautes graves, et peut-être est-ce pour cette raison que Dieu ne lui a pas confié la construction du temple à lui-même, mais à son fils Salomon. Et donc, même si David se pose la question « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», dans son fort intérieur, il devait certainement en deviner un peu les raisons. Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? S'écrit cette fois-ci Jésus, mais cette fois en araméen, alors qu'il était sur la croix. Telles ont été ses dernières paroles, rapportées par Matthieu et Marc. Pourquoi Dieu aurait-il abandonné cet homme animé de bonté, d'amour, à la conduite impeccable? Alors, impeccable, ça veut dire sans péché. Peut-on imaginer qu'au travers de cette supplication, Jésus s'adressait plutôt aux siens? Nombreux sont ceux qui estiment que les Juifs ont abandonné Jésus, à qui ils reprochaient d'être le prophète, le sauveur, le roi des Juifs, le Messie et le Fils de Dieu. Un prophète, d'abord. Jésus lui-même ne s'est pas targué de ce titre. À la question « Es-tu le prophète ?» émanant de Jean, il répondit « Non » dans Jean 1, 21. Il avait bien pris conscience que nul peut être prophète dans son pays. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est reçu dans sa patrie, dans Luc 4, 24. Mais qu'est-ce qu'au juste qu'un prophète? Étymologiquement, en latin, le prophète, c'est celui qui parle du fatum, c'est-à-dire de la destinée. On peut le rapprocher du professeur qui parle, ou du confesseur qui fait parler, contrairement à l'enfant, infants, qui ne sait pas parler. L'enfant, c'est celui qui ne sait pas parler. Vous avez quelques petites diapos, enfin, des petites étiquettes où on a un petit peu tous les mots qui contiennent le mot fatum. En hébreu, prophète se dit navi. Abraham et Moïse ont été les premiers prophètes. Par la suite, de nombreux prophètes, tels que Eliaou Anavi, ont fait l'objet du livre Les Neviim, qui constitue la deuxième partie de la Bible ou Ancien Testament, qu'on appelle en hébreu Tanakh, parce qu'il y avait Torah, Neviim, les prophètes, et Ketuvim, les écrits. Étymologiquement, le Navi, c'est celui qui se laisse venir. Le Noun correspond en fait à une forme passive, et celle en particulier du verbe venir, qui veut dire, qui se dit beau. Né beau, en fait. On rencontre le radical vi ou bi dans la Torah à propos de Abel, qui offrit à Dieu les premiers-nés de son bétail, ve evel evi gamou bi berochot zono. Un peu plus loin, il est dit Leman avi Hashem al Abraham et Asher diber, afin que l'Éternel accomplisse sur Abraham ce qu'il a déclaré. Cet accomplissement n'est pas sans rappeler ce que disait Jésus à ses disciples. Ne pensez pas que je sois venu abolir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir jusqu'à ce que tout se réalise. Dieu demande d'être sévère à l'égard des faux prophètes. Dans le Deutéronome 18-22, il est dit « Il doit mourir s'il annonce en son nom une chose qu'il n'aurait pas demandé d'annoncer, et pour savoir si la parole émane de l'Éternel, si celle-ci n'est pas suivie des faits, c'est qu'elle n'aura pas été dictée par l'Éternel. » Or, Jésus est mort précocement, et le christianisme qui devait apporter l'amour et la paix n'a en fait amené, et l'histoire le prouve, que des scissions et des guerres de religion. Mais, rappelons-le, Jésus ne s'est pas lui-même qualifié de prophète. le Messie. Alors, de même que les Juifs prennent appui sur le fait qu'il n'a pas rempli les objectifs du Messie attendu pour refuser de le considérer comme le vrai Messie, je rappelle que le mot Christ, dont dérive le mot chrétien, est synonyme du mot Messie, ou du mot oint. L'huile qui a servi pour l'onction de Jésus a certainement donné une onctuosité et une souplesse aux lois, sans doute un peu rigides, de la Torah, afin qu'elles soient acceptées par le plus grand nombre. Mais le problème vient que certains juifs ont la nuque raide, d'autant que cet assouplissement a abouti à une suppression d'un certain nombre de fondamentaux de la Torah, comme les lois alimentaires ou la circoncision. Mais dans ce cas alors, pourquoi attendent-ils un Mashiach qui ne correspond pas à leurs attentes, puisque la définition d'un Mashiach, c'est d'être, de donner une souplesse aux choses. L'apôtre Jean-Baptiste ne sent pas de jouer le rôle qui nécessite une certaine souplesse, justement. Il dira « Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers » dans Marc 1,7. Ce verset n'est pas sans me rappeler l'interprétation lumineuse de Marc-Alain Wattin lors de son passage à Annecy en 2007 du verset de l'Exode 3,5 où Dieu parle de Moïse pour la première fois et il lui demande, alors c'est sa première parole, de se déchausser avant de fouler le sol sacré où se trouvait le puissant ardent. Un petit peu comme quand on va chez une personne et on lui demande de se déchausser avant d'entrer dans l'appartement. Et comme Mao l'avait justement remarqué, Na'al, qui est correspond à la chaussure, veut dire fermer. En fait, c'est la fermeture, c'est d'où le nom de la Neila, qui clôture la fête de Kippour. Et lorsque Hachem lui demande d'ôter sa chaussure, et en fait, il lui demande d'enlever sa fermeture d'esprit, afin d'être un homme libre. Il ne suit pas le troupeau, en particulier celui de son beau-père. Et alors, seulement, il pourra libérer, écouter les autres. Il faut être libre pour pouvoir être écouté et libérer les autres. Jésus, un sauveur. Les Juifs n'acceptent pas non plus son rôle de sauveur de tous les péchés du peuple, car la Torah dit que le salut et la repentance des péchés ne peuvent pas être obtenus par le sacrifice d'une autre personne. Les pères ne doivent pas être condamnés pour leurs enfants, ni les enfants condamnés pour leurs pères. Chacun doit être condamné pour son propre péché, dans Deutéronome 24, 16. Et à la place, les textes se focalisent sur la nécessité d'une repentance personnelle. Dans Jérémie 36, 3, il dit: peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, et alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Michel Polnareff nie la Torah en disant « On ira tous au paradis, tous les brebis et tous les bandits ». Lui-même, d'ailleurs, s'est retrouvé en enfer sur terre, poursuivi par le fisc et forcé de s'exiler de cette France qu'il aimait tant, peu de temps après avoir écrit cette chanson. On voit d'ailleurs sur cette diapo, donc le texte de la première chanson « On ira tous au paradis », et puis c'est un parole de regret où il disait qu'il était loin de soi, qu'il pensait toujours à la France, et qu'il était très triste d'être obligé d'être vivre dans un pays qu'il aimait, enfin loin du pays qu'il aimait. Le nom de Jésus, Yeshua, signifie le sauveur. Il s'identifie comme juif par le Yod, il apporte un renouveau par le Shin, tout en retournant aux sources de la Torah grâce au Aïn, qui veut dire la source. On le voit comme celle de Aïn Gedi. Et le Vav confirme ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, même si certains veulent effacer ce lien à ses sources juives, comme en témoigne la suppression de la fête de la circoncision dans les calendriers, d'où le nom de Yeshu, mais sans le Haïn. Et d'autres considèrent que Yeshu serait un acronyme de Yemach Shemo Vezikru, en hébreu, ce qui veut dire en français que son nom et sa mémoire soient effacés. Il n'empêche que Jésus a été dans sa vie un guérisseur miraculeux. 37 cas de guérison sont rapportés dans l'évangile, et ce, sans avoir étudié la médecine. Le roi des Juifs. Autre grief, son appellation de roi des Juifs, Inri. Le roi, c'est celui qui dirige, celui qui donne une direction, comme le berger dirige ses brebis. Le problème, c'est que les Juifs ne sont pas des brebis. D'autant qu'à l'époque, il existait une multitude de courants politiques et religieux qui ne souhaitaient pas se laisser mener par un homme qui voulait tout réformer. Il a quand même réussi à être le roi des futurs chrétiens. Le Fils de Dieu. Mais c'est surtout la majorité des Juifs n'accepte pas la notion de Trinité et de Fils de Dieu, même si cette expression est déjà présente dans la Genèse, dans 6.2, on dit « les fils de Dieu trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles ». Il la refuse au nom du monothéisme proclamé dans l'expression du Shema Israël « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un ». Je m'étais dit que lorsqu'il est dit « l'Éternel est un », ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas plusieurs, mais peut-être qu'il n'est pas « le ». Autrement dit, que ça pouvait signifier que l'Éternel est un en tant qu'article indéfini. Donc ça voudrait dire que l'Éternel est indéfini, simplement. Lorsqu'on récite ce verset, on se cache d'ailleurs les yeux, car c'est la vue qui permet de définir les choses. Mais j'en dis pas plus, car j'anticipe sur mon exposé de l'an prochain. Mais de toute façon, cette hypothèse ne tient pas la route, car le mot « Echad » en hébreu correspond bien au chiffre 1 et non à l'article indéfini. Par contre, Gérard Manon m'avait fait fort justement remarquer qu'il y a un petit trait vertical juste avant le mot « 1 » qui indique que le mot « 1 » va être coupé en deux. En effet, comment définir le concept de Dieu unique ? Il faut dire que dans la Torah, Dieu a déjà au moins un double visage, celui de Elohim, le Dieu de justice, et celui du tétragramme, le Dieu d'amour. Il faut rappeler que le tétragramme, c'est une contraction de « il a été, il est et il sera ». Autrement dit, c'est l'être éternel. Ce qui signifie que l'amour a donné, donne et donnera au monde une certaine éternité. En récompense de l'amour que Jésus a donné aux hommes, Dieu lui a donné une certaine forme d'éternité dans le monde entier, puisque ces enseignements sont encore donnés aux chrétiens de nos jours, marquant les principales étapes de leur vie. Dans une moindre mesure, David avait obtenu une certaine forme d'éternité, puisque nous chantons, juifs et chrétiens, ces psaumes encore de nos jours. Chaque fois que nous rappelons la mémoire de nos ancêtres, nous leur donnons une étincelle d'éternité et donc de divinité. Dès lors qu'on fait régner la justice, l'amour de ses frères, le respect de la liberté de son prochain, c'est-à-dire en fait qu'on respecte finalement les lois républicaines. On aime ce Dieu unique, aux multiples facettes, y compris s'il a un nom différent, comme Bouddha, ou s'il a plusieurs visages, voire même qu'on ne croit pas son existence. C'est toujours le même Dieu de vie. Par contre, si on y associe un Dieu de la mort, dans laquelle on impose par la violence des lois injustes, sexistes, au nom d'un Dieu qu'on met à son service pour affirmer son propre pouvoir dans un but destructeur ou de domination ou d'enrichissement personnel, là on est dans le véritable polythéisme, ou plutôt de bithéisme, avec selon les humeurs, un dieu de l'altruisme ou un dieu de l'égoïsme. Et là, toutes les religions sont concernées. Cela veut-il dire que notre Dieu unique est un Dieu de paix? On peut se poser la question quand on voit que Saül a été destitué de sa royauté parce qu'il a épargné Agag, le roi des Amalécites. Ces derniers avaient attaqué, par surprise, les Hébreux lors de la sortie d'Égypte, comme ce fut le cas récemment pour les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Or Dieu avait dit à Saül, j'ai à demander compte de ce qu'Amalek a fait à Israël, en se mettant sur son chemin quand il sortit d'Égypte. Maintenant, va frapper Amalek et anéantissez tout ce qui est à lui, qui n'obtienne point de merci, fait tout périr, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Dans l'histoire d'Esther, Mardoché avait aussi exterminé Aman et ses fils, ainsi que les habitants de la ville de Suse, avec la bénédiction d'Assuérus, mais aussi celle de Dieu. Mais dans tous les deux cas, l'objectif était notre survie. En conclusion, si les Juifs n'ont pas suivi la voie que Jésus préconisait, peut-il dire que Dieu l'a aussi abandonné, comme John Williams dans sa chanson « Si toi aussi tu m'abandonnes » du film « Le train sifflera trois fois ».
Jamais rien, non, rien.
Non, Dieu ne l'a pas abandonné, car il l'a ressuscité. Et surtout, il lui a donné une certaine éternité au travers de la religion créée par ses disciples, tout comme David au travers des psaumes qui sont encore lus de nos jours par les fidèles juifs et chrétiens. Avant d'aborder la racine hébraïque azov, qui veut dire abandonner, je dirai quelques mots de la signification de ce terme en français. Le terme abandonner est composé de trois radicaux, a, ban et donner. Ce dernier se dit en hébreu natan, donner, hein, je parle du verbe donner. Il contient la lettre tav, natan. C'est la lettre de la mort. Quand on meurt, on abandonne ses biens à ses enfants, même si les impôts en prennent une petite partie. Il donne une note de générosité et de liberté au mot abandonné. Dans la Torah, on retrouve ces notions dans les versets suivants. Pharaon abandonna tout ce qui lui appartient aux mains de Joseph, dans Genèse 39, 6. Et puis, tu ne grappilleras point dans la vigne. Tu ne cueilleras point les grains épars de la vigne, abandonne-les aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, ton Dieu, dans Lévitique 19, 10. Le mot « ban », c'est un mot médiéval qui signifiait la loi. Il a pris le sens de proclamation officielle par le Seigneur via un héros. Héros, H-E-R-A-U-T, hein, bah, je ne suis pas un héros, hein, qui parcourait les rues dans les campagnes, bannière à la main, pour rendre public, pour le peuple, la volonté du roi. De nos jours, il reste de cette coutume la publication des bans de mariage, la notion de triple ban pour une ovation, ainsi que les bannières que brandit le peuple pour affirmer son désaccord par rapport aux décisions du président de la République. Là, les rôles sont inversés. Le sens de ce mot a été étendu au territoire d'influence du Seigneur, qu'on appelle banlieue, soit environ 4 km autour de la ville. Ces installations techniques, le four à pain, le pressoir, le lavoir sont mises à disposition de la population moyennant redevance. C'est quand même ce qu'on appelle maintenant les impôts locaux. Ils ont été appelés banal, le four banal, on parlait, dans le sens de communal. Par la suite, ce mot a pris le sens de ordinaire, sans particularité. Le banc a donc été proclamé par le Seigneur afin que les ennemis se retrouvent en débandade ou alors en exil. Ils sont bannis afin de mettre également de mettre aux bandes de la société les bandes de jeunes, des banlieues, les forbans et les bandits qui font de la contrebande de manière à ce qu'ils se retrouvent au banc des accusés. En attendant d'aller au paradis, selon Paul Naref. Donc, abandonner, c'est donc donner au pont. Ce qui pourrait donner l'impression de générosité, de liberté. Alors qu'en fait, cela signifie laisser sous le pouvoir du Seigneur, car le pont appartient au Seigneur, mais à distance de lui. Après ces quelques banalités, revenons-en au terme hébraïque Azov.
Pas mal.
Dans le terme hébraïque Azov, on retrouve la notion de force Oz, qui s'écoule Zov, vers le bas, les descendants, les pauvres, et vers l'intérieur. Le radical Oz se retrouve dans de nombreuses racines hébraïques, telles que le mot Booz, qui est le futur mari de Ruth. Et ça signifie en lui la force, Booz. On le retrouve aussi dans chèvre, aise, dans as, cruel, violent, effronté, no as, impudent. Il y avait aussi dans également dans Retsuat Aza, qui veut dire la bande de Gaza. Le Aza de Gaza, ça vient de Oz, la force. La racine Azor, qu'on voyait sur la droite, signifie aider, et ça désigne une force, une source, puisque Aïn, en mouvement. Le Oz, il y a le Aïn qui correspond à la source, et le Zaïn qui est le mouvement. Donc c'est une source en mouvement. Zaïn, on le retrouve par exemple dans la flèche. Zouz, c'est bouger. Donc c'est la force qui bouge. Et là, en plus, elle illumine. Parce qu'on retrouve le radical, enfin le resh qui correspond à la lumière, or. Et donc c'est une force en mouvement qui illumine et aide son prochain de manière visible, à la lumière. Alors que Azov, c'est une force qui pénètre, qui coule à l'intérieur. Elle n'en est pas pour moi, pour autant, moins efficace. Et abandonner, c'est aussi aider. Alors, ainsi, laisser partir un fils pour faire ses études à l'étranger, c'est aussi l'aider à réussir, même s'il nous donne l'impression qu'il nous abandonne. Nous verrons dans un instant qu'il en est de même quand il va se marier. En effet, le premier échelon de la société touchée par l'abandon, c'est la famille et notamment les parents. Si certains enfants sont abandonnés par leurs parents, cela a été le cas pour Abraham vis-à-vis de son fils Ismaël qu'il abandonne dans le désert, il est normal qu'au moment de se marier, les enfants abandonnent leurs parents pour faire leur vie. Il dit « Alken ya'azav ish ve'aviv ve'et imo ve'dabak ish ve'ishto ve'ayu le'basar echad » C'est pourquoi l'homme doit abandonner son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, dans Genèse 2:24. Que veut-on dire par là? Peut-il considérer ses parents comme des personnages banaux une fois qu'on se marie? Cela semble un peu aller à l'opposé de ce que préconise le cinquième commandement « Honore ton père et ta mère ». En fait, abandonner, c'est surtout mettre de la distance avec ses parents, avec ses enfants, pour ne pas interférer avec leur le choix de leur future épouse ou épouse. Selon Samuel Richon Hirsch, c'est aussi ne pas chercher sa femme parmi ses proches parents. Avec des liens de parenté trop étroits, ils posséderaient les mêmes vertus, les mêmes défauts, et leur union ne ferait que renforcer leurs traits de caractère, je rajouterai même leurs traits génétiques, ce qu'on appelle la consanguinité. Et en fait, la femme doit compléter l'homme, elle doit posséder d'autres traits caractéristiques. C'est cette distance que met le couple vis-à-vis de ses parents qui va favoriser la création. Les gouttes de pluie ont besoin de s'éloigner des nuages qu'ils ont créés pour irriguer les plantations semées et faire naître des fruits et des légumes. C'est ça le sens de cette force qui s'écoule. Et ce produit de la terre va donner un sens à la fonction de nuages parents qui en sont fiers et honorés, et également du poids à la famille qui se multiplie et s'agrandit. C'est ça la force descendante du kavod. Dans l'histoire de Ruth, c'est la mère Naomi qui va demander à ses filles de l'abandonner afin qu'elles puissent faire leur vie et construire leur propre famille. Et Ruth dit, « N'insiste pas près de moi pour que je t'abandonne et m'en retourne d'après toi, car partout où tu iras, j'irai, et tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth donc refuse d'abandonner sa maman. Mais elle va quand même s'en éloigner un petit peu pour lui amener un gendre et les fruits de son travail. Revenons un instant sur le cas d'Ismaël qui a été à la fois abandonné par son père, Abraham, qui a obéi aux consignes de sa femme qui ne supportait pas qu'il se moque de son propre fils Isaac, mais aussi par sa mère Agar, qui ne voulait pas le voir mourir de soif et elle est allée pleurer dans son coin. Fait curieux, Dieu qui avait recommandé à Abraham d'écouter sa femme, fut sensible non pas aux pleurs d'Agar, mais aux gémissements de l'enfant, et il envoya un ange pour dire à la maman, « Relève-toi et reprends cet enfant, soutiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Il lui recommande donc de ne pas perdre espoir. Dieu est toujours à nos côtés quand nous l'invoquons dans la souffrance, mais aussi de l'accompagner, de l'aider, d'être à ses côtés, car un enfant a toujours besoin de sa maman. Autre problème voisin, celui de la solidarité au sein d'un groupe social, politique, ethnique ou religieux. Quand un individu appartenant à un groupe social ou religieux met en danger son groupe volontairement ou non, il est souvent rejeté et abandonné par l'ensemble du groupe. Il est souvent arrivé que des radicaux islamistes tuent des civils français par pure méchanceté. La communauté musulmane dans son ensemble va rejeter de leur communauté ces assassins, car dont les fondements religieux n'ont rien à voir avec l'islam. Et ce, d'autant plus qu'elle craint que ces crimes attisent la haine raciale à leur propre égard. Quand les Ukrainiens ont été attaqués par les Russes il y a 2 ans, une grande majorité des pays du monde a été solidaire avec eux. C'est ce qu'on appelle l'effet coup de cœur. Mais maintenant que les choses stagnent, de nombreux pays arrêtent d'aider ce pays pour des motifs politiques, économiques, mais sans doute simplement par accoutumance à un conflit qui dure. Et de ce fait, les Ukrainiens se sont sentis abandonnés. De même, dans la lutte contre certaines maladies comme le sida, la solidarité s'étiole avec le temps parce qu'elle n'est plus à la une de l'actualité. Et de même, d'ailleurs, après de certaines grandes catastrophes, les gens donnent beaucoup au début, puis après, hop, ça passe dans les oubliettes. En ce qui concerne les Juifs, la remontée récente de l'antisémitisme témoigne d'une banalisation du fait de la Shoah, au point qu'on veut même en supprimer le récit des livres d'histoire. Étymologiquement, le mot Shoah est un contresens. En effet, il est issu de la racine Shav, qui est employée dans le troisième commandement. L'Otissa est Hachem, Etchem Hachem, Elohecha la Shav, qui veut dire « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » On traduit aussi « à la pluie du mensonge » ou bien « inutilement ». C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne dit pas, qu'on n'écrit pas le nom de Hachem, le nom de Dieu, de manière intégrale. On intercale souvent un point entre le D et le I. Et ainsi, la Shoah aurait-elle été quelque chose de vain, d'inutile, voire un mensonge de l'histoire? Ce serait donner foi aux thèses des négationnistes. Pourtant, je pense que ce mot doit être conservé car il a été chargé de sens et consacré. Une question reste cependant sans réponse. Pourquoi Hachem nous a-t-il abandonnés, croyants comme mécréants, pendant la Shoah? Notre ami Samuel Remshon Hirsch disait à propos de ces malédictions annoncées dans la terrible paracha Kitavo du Deutéronome, qu'elles frapperont Israël de manière collective, sans distinguer le juste et l'injuste, entre l'oriental et l'occidental, entre les grands et les petits. Rapprochés les uns des autres par la misère, le peuple trouvera sa cohésion qui lui a manqué si cruellement du temps du bonheur. On peut rapporter le cas du directeur de la Yeshiva Ohel Torah de Baranowicz en Pologne, le Rav El Hanan Wasserman, qui était en déplacement aux États-Unis pour récolter des fonds et qui décida de rentrer en Europe pour ne pas abandonner ses élèves dans la guerre. Malheureusement, les nazis avaient investi la ville et lorsqu'ils ont encerclé le bâtiment afin de le livrer aux flammes, le Rav éveilla ses élèves à une prise de conscience. Il faut être convaincu que notre disparition, celui de la majorité du judaïsme européen, a été voulue par le ciel comme sacrifice expiatoire pour l'ensemble du peuple juif. Or, il y a une loi dans les korbanot sacrifices qui est la suivante. Si la pensée est inadéquate au moment de l'action, le sacrifice devient impropre. Concentrons-nous sur cette idée et réjouissons-nous d'avoir été choisis pour cette noble mission. Et c'est ainsi qu'ils ont péri en chantant. Au-delà de cette idée de sacrifice discutable, on peut rendre hommage à ce Rav qui aurait pu échapper au massacre en restant aux États-Unis et qui a pour le coup sacrifié sa propre vie pour ne pas abandonner les élèves de son école. Il espérait peut-être que Dieu l'aurait récompensé de son courage en les épargnant, comme il avait épargné Isaac sur le mont Moria. Cela nous permet d'aborder notre dernier aspect de l'abandon, celui qui nous relie à la religion et à Dieu. Pourquoi tant de juifs abandonnent-ils partiellement ou totalement la religion? Pour plusieurs raisons. Certains sont découragés par des règles trop nombreuses et difficiles à respecter dans la vie de tous les jours, ceux qui habitent loin de tout centre communautaire notamment. D'autres ne croient pas à l'authenticité de la Torah, qui leur parlait un décalage avec ce que dit la science. Et puis il y a ceux qui n'éprouvent pas le besoin de prier Hachem parce qu'ils sont repus et bien heureux. Puis il y en a d'autres qui se sentent exclus des communautés ultra-orthodoxes parce qu'ils ont choisi de vivre avec un conjoint, une conjointe non-juive. Enfin, il y a ceux qui rejettent tout en bloc en réaction au silence divin pendant la Shoah. Pour terminer, je voudrais vous faire part d'une histoire vraie raconté par le grand rabbin Lau, et qui raconte l'histoire étonnante de l'enfant de la fille d'un rabbin dont le père n'était pas juif, et qui a été confié par sa mère à un monastère pour son éducation. Elle-même s'était éloignée de la religion. Un des disciples du rabbin alla un jour chez elle, mais elle ne voulut pas la recevoir. « Je n'ai plus rien à voir avec vous. J'ai ouvert un nouveau chapitre dans ma vie. » Il demanda un verre d'eau et les nouvelles de son père. Elle lui raconta qu'un jour, les hommes de la Gestapo étaient rentrés chez eux, avaient bousculé son père, l'avaient frappé à la tête alors qu'il était en train d'étudier une page de Gemara, et ce dernier s'est retrouvé effondré sur le coup. Il fut attristé par cette nouvelle et combattit avec elle en disant « Beaucoup de questions sont sans réponse. Les secrets appartiennent à Dieu, mais nous devons avancer. Le grand-père de votre fils n'a eu qu'un seul petit-fils. Si vous poursuivez la voie dans laquelle vous l'avez placé, vous accorderez à ceux qui ont assassiné votre père une ultime victoire. Ce qu'ils espéraient, éteindre l'étincelle afin qu'elle ne s'allume plus jamais. Alors que si vous suivez les traces de son grand-père, c'est votre père qui sortira vainqueur et pourra, par votre fils, terminer la page de Guémarin qu'il avait commencée et à lire et au moment de l'irruption de la Gestapo. La clé est entre vos mains. Le disciple se leva pour repartir et la fille courut après lui en disant « Je suis prête à le sortir du monastère à condition que vous le preniez en charge son éducation. Je n'ai personne pour le faire. » Le jeune rave accepta à son tour, mais pour ça aussi une condition. Qu'elle l'accompagne pour que son fils accepte de le suivre. Et cet enfant est devenu depuis un grand rabbin en Israël. Le Satan avait été vaincu. Tout se dit pour dire que s'il arrive que Hachem s'éclipse quand son peuple le délaisse et abandonne ses commandements, lui-même ne l'abandonne jamais totalement, définitivement. Il nous le dit sans relâche. « Soyez fort et vaillant, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te laissera pas succomber, il ne t'abandonnera point. » Dans le Deutéronome 31.6. Un peu plus loin, dans Deutéronome 32.36, il dit qu'il va juger, punir son peuple qu'il a abandonné. Et quand il se verra qu'il se sent lui-même abandonné, la main épuisée, sans force, sans pouvoir s'accrocher à une quelconque espoir, ou pour s'appuyer sur un quelconque secours extérieur, alors il reviendra vers lui, et alors Hachem le consolera et aura pitié de lui, et accomplira la promesse qu'il avait jurée à Abraham de ne pas l'abandonner jusqu'à la fin des temps. Car l'Éternel juge son peuple, puis il console de ses serviteurs quand il voit que leur main est épuisée, qu'il est sans appui et abandonné. En conclusion, si de grandes figures bibliques comme David et Jésus ont eu un moment un doute sur le soutien indéfectible de Dieu, on peut comprendre le désarroi de certains d'entre nous dans certaines situations désespérées où nous sollicitons son aide, parfois sans réponse apparente de sa part. C'est sans doute pour renforcer nos capacités à faire face à l'adversité en nous apportant un soutien discret, distant, mais indéfectible et éternel. Même si on a pu penser que Dieu nous a abandonnés par son silence pendant la Shoah, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une inspiration divine dans la décision des nations du monde entier par l'intermédiaire de l'ONU en 1948 qui a permis de donner un lieu de sécurité commun aux Juifs du monde entier matérialisé par la création de l'État d'Israël? Je vous remercie de votre attention pour cet exposé un peu long, je m'en excuse, mais il ne reflète que ma vision personnelle, mais sincère du judaïsme et du christianisme, et je reste bien entendu à l'écoute de vos commentaires et questions.
Bel exposé, chaleureux comme tu sais l'être, hein, et tellement documenté, puis très drôle par instant. J'avoue que les raccourcis que tu fais entre la carrière d'ancienne école, ça, c'est absolument savoureux, c'est extraordinaire. J'ai deux remarques liminaires à faire concernant les traductions, comme toujours, bien évidemment, mais j'effacerai très vite. Hein. Dans le texte que tu cites sur Abel, les havis en hébreu, ça ne veut pas dire offrir, ça veut dire apporter. Et je ne sais pas quelle est la traduction que tu as utilisée, mais c'est une erreur, hein, en fin de compte. Hein. C'est très très différent avec offrir. Offrir, c'est la tête, c'est matan, une offrande, hein, bien évidemment. La deuxième chose, c'est quelque chose qui est plus discuté encore, c'est la prononciation, l'analyse du fameux tétragramme, dont seul le grand prêtre le jour de Kippour, prononcer la réelle prononciation dans le Saint des Saints. On ne sait pas comment ça se prononce. Mais la notion de passé, on considère, pour la plupart des commentateurs, on considère actuellement qu'il n'y a pas de notion de passé en tétragramme. Il y a uniquement présent et futur. C'est je suis, je serai. Je suis celui qui sera, en fin de compte. On est dans cette relation. La seule fois où on parle de Dieu en évoquant le passé, c'est dans la prière, quand on dit Adonai Malach, Adonai Melech, Adonai Imloch Leolam Ved. Dieu a régné, il règne et il régnera. Mais le tétragramme dit je suis, je serai. Pour la plupart des commentateurs, en tout cas pour Trigano, pour Marc-Alain Wachnin, c'est comme ça qu'ils le traduisent. Donc il y a une discussion à avoir à ce niveau-là, mais on ne sait pas comment ça se prononce. Mais c'est un peu l'opinion qu'on a maintenant. Je viens à des choses qui sont quand même plus lourdes, quand même. Quand un psaume commence par « Mizmor le David », on a beaucoup parlé, qu'est-ce que c'est que ce « le David » ? Est-ce que c'est « de David » ? La plupart des paléographes, parce que tu sais que les psaumes, les 150 canoniques, parce qu'on a bien d'autres, ont été collectés, c'est une collection qui est devenue canonique au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc l'écriture des psaumes, des 150, se fait entre moins 1000 et moins 400. Donc ce qui veut dire qu'il y a des textes extrêmement disparates, parfois associés, qui viennent de périodes différentes. La plupart des paléographes actuellement considèrent que seuls 20 psaumes sont de matrice d'époque davidique. Et c'est la matrice, c'est la racine. Donc on traduit maintenant Mizmor le David, non pas le psaume de David, mais le psaume dédié à David, ou le psaume à propos de David. L'attribution personnelle d'écriture à David, on sait qu'il jouait de la lyre, on sait que les psaumes sont accompagnés par des instruments à cordes, mais attribué à David, personne n'en est certain. Ce qui veut dire qu'il faut que tu réfléchisses à ça, parce que actuellement, on sait très bien dater les psaumes. Or, leur écriture, c'est sur les 150, parce qu'il y en avait avant.
C'est-à-dire après la mort de David.
Et il y en a eu après, hein, bien évidemment. Mais les 150 qui sont retenus dans le canon, dans les Tehillim, les louanges, c'est il n'y en a que 20 dont on sait par l'hébreu qu'ils emploient qu'ils sont de la période davidique. Mais on ne sait pas s'ils sont de lui, bien évidemment. Hein. Bon, ça c'est une remarque que je voulais faire qui est importante pour la pensée. La deuxième, simplement conforter un peu ton propos, Christ sur la croix, récite les psaumes, le psaume 22 en particulier. Les juifs n'ont pas d'office des morts, ils n'ont pas de prière des morts, ça n'existe pas. Par contre, on récite les psaumes toute la nuit, quand les gens meurent, quand ils sont moribonds. Donc Christ est vraiment dans sa logique lorsqu'il récite les psaumes sur la croix. Par contre, quelque chose que je vais t'apporter n'est pas de moi, c'est un poète hébraïste distingué que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de faire venir à Chambéry, qui s'appelait Henri Méchonic. Henri Méchonic était complètement arreligieux. Par contre, très fin hébraïsant. Il a traduit les cinq rouleaux, dont Ruth, il a traduit les psaumes. Et lui, qui était un poète et un grand théoricien de la poésie, restaure dans la psalmique la rythmique de l'époque, les pauses, les séquences d'arrêt du texte. Et lui, dans le psaume 22, dit « Il ne faut pas lire « lama ». Pourquoi ? Mais « la »,« ma ».« À quoi m'as-tu abandonné ?» Et là, ça change totalement la problématique. On n'interpelle pas Dieu en disant « pourquoi ?» On dit « mais à quel sort tu m'as abandonné ?» Et ça me rend encore plus pathétique et vraie et humaine l'image du Christ qui dit « tu m'as abandonné au sort humain ». À quoi m'as-tu abandonné ? Mais pas pourquoi ? Il ne se permettrait pas d'interpeller son père, bien évidemment. Donc, je crois que Méchonic, qui est totalement athée, il est décédé depuis. J'en ai beaucoup parlé avec lui, parce qu'après la conférence, il est venu dîner chez moi. Et il lui dit, il faut le lire comme ça. À quoi m'as-tu abandonné ? Et non pas, pourquoi m'as-tu abandonné ?
C'est tout une simple question de compréhension. Alors peut-être qu'il n'y a pas de différence. J'ai vu tout à l'heure le rab. Est-ce qu'il y a une différence entre le rab et le rabbin ? Ou non, c'est exactement...
Non.
C'est exactement pareil.
C'est la traduction.
Oui, Rav en hébreu, ça veut dire beaucoup. C'est celui qui
beaucoup sait de connaissances.
Beaucoup. Celui qui est un compilateur, quelqu'un qui est une référence parce qu'il est une encyclopédie du savoir. C'est ça le rabbin, c'est pas autre chose. Et comment dire, moi j'aime beaucoup Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Madeleine, quand elle touche le Christ en disant Rabouni, mon petit rabbin. Bon, désolé, hein, je vois que personne ne veut te parler. Là, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle beaucoup et très très douloureusement. C'est cette évocation que tu fais de cette analyse de la Shoah par une partie des rabbins qui parle de korban, qui parle de sacrifice, si tu veux. Et je trouve ça insupportable à titre personnel. Aucun peuple n'a vocation au sacrifice, aucun, pas le moindre. Et le peuple juif moins que tout autre. Le non-sacrifice d'Isaac, la quête à la ligature, c'était l'interdiction du sacrifice humain. Et ça concerne également la Shoah. Donc la Shoah est arrivée, c'est pas un cadeau, hein, je veux dire, c'est pas, on n'était pas voué à ça, bien évidemment. Et toute une partie des rabbins ultra-orthodoxes, ceux en particulier qui disaient que la Shoah commence en Allemagne, parce que les juifs allemands étaient les plus assimilés du peuple juif, c'est insupportable. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter du tout. Non, on ne peut pas parler de Corban pour la Shoah. La Shoah, c'est un accident d'histoire, c'est la pointe extrême, c'est le mal absolu, si tu veux, mais c'est probablement l'acmé d'un XXe siècle génocidaire, appliqué à la manière allemande, c'est-à-dire systématique, théorisé, bien évidemment, et de façon massive, industrielle, et voilà. Et ça concernait bien évidemment le peuple juif qui en avait l'habitude. Mais non, nous ne sommes pas voués au martyr. Ça, c'est une vision insupportable.
Alors, je me permets d'ajouter à Albert, et je suis tellement de ton avis, c'est quelque chose que beaucoup de nos amis juifs pensent de la même façon. C'est absolument insupportable. Mais ce qui est le plus insupportable, c'est de penser que l'État d'Israël a été créé parce qu'il y a eu la Shoah. Il commençait à être créé bien avant 1870 avec Theodor Herzl et des années et des années où il y avait dans nos familles ashkénazes énormément de personnes qui partaient en Palestine et qui allait fonder les tout premiers kibbutz. Et il y avait de toute façon déjà des juifs en Palestine, puisque ça s'appelait comme ça, qui étaient restés depuis toujours. Mais là, en tout cas, oui, au moment de la Shoah, à la fin, et encore ça a été si difficile de pouvoir y aller, parce que même les États du monde ne voulaient pas, on a remis les juifs dans des camps avant de pouvoir aller. Mais dire qu'on a fondé Israël parce qu'il y a eu la Shoah, c'est aussi inacceptable, et que finalement, c'est comme si c'était un bénéfice. Ah, il y a eu la Shoah, 6 millions de morts, mais il y a Israël. Non, ça non plus n'est pas acceptable.
Bon, je vais apporter une petite contradiction, mais vous pourrez me reprendre. Il est quand même vrai que les nations européennes ont culpabilisé et que finalement Israël a obtenu la majorité en 48.
47.
En 47, merci. Pardon, c'est mars. Alors, je veux pas aller dans
pas la majorité, dans le sens dont pas la majorité, majorité relative.
Une majorité relative, mais qui peut peut-être
deux voix près
s'expliquer par une culpabilisation de la conscience européenne. C'est peut-être possible. Mais je ne veux pas faire l'apologie du sacrifice,
non, hein, non,
c'est pas
non,
ça.
Non,
mais
non.
Peut-être que, voilà, certains pays européens.
Non, je peux pas accepter ça, Jean-Albert. Le plan de l'ONU en 1947 crée deux États. Donc la problématique actuelle, elle est double. Un, responsabilité de la France et de l'Angleterre dans la liquidation de l'empire colonial, première chose. Dépeçage de l'empire turc en créant des frontières artificielles qui, en Afrique, ne cessent pas de créer des guerres. Donc, effectivement, c'est une situation post-coloniale où les anciens colonisateurs ont une immense responsabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que deux nationalismes s'affrontaient. On a créé sur la même terre deux États. Le premier État est né, c'est l'État d'Israël. Les pays arabes avoisinants n'ont jamais accepté l'État palestinien. Les Jordaniens se sont emparés de la partie cisjordanienne qui était dévolue au futur État palestinien. Les Égyptiens se sont emparés de la bande de Gaza qui était... Voilà. Et aucun de ces pays n'a intégré les réfugiés. Voilà, donc voilà où on en est maintenant après la série de guerres qu'on a pu avoir. On est avec un nationalisme qui a réussi, l'autre qui n'a pas réussi, pour des motifs qui ne sont pas liés aux Juifs, hein, bien évidemment. Parce que si on avait accepté des deux pas côté le plan de partage de 47, il y a belle lurette qu'on aura un État palestinien. Je vous rappelle aussi que Palestine est un mot extrêmement ambivalent. Le mot Palestina a été inventé par les Romains après la grande révolte de 136, la révolte de Bar Corba, où 1 million de Juifs sont morts, 1 million ont été déportés. Et les Romains ont dévasté et vidé la terre d'Israël, bien évidemment, ont détruit Jérusalem, qu'ils ont rebaptisé Aïa Capitolina, et le pays qu'ils l'ont appelé, par dérision, pays des Philistins. Alors que les Philistins étaient des peuples de la mer qui avaient disparu à l'époque du roi David, qui avait peu de temps après. Je veux dire, c'est des gens qui avaient disparu de cette terre depuis plus de 1000 ans. C'est par dérision que les Romains ont appelé ce pays « terre des Philistins ». Ce qui veut dire qu'il y a une énorme ambiguïté, presque comique d'ailleurs, à appeler ce pays « pays des Philistins », hein, bien évidemment.
Oui, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'abandon. Pourquoi, quand on demande à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que je pense que c'est une question encore d'actualité dans ceux qui croient en Dieu, en tout cas. Surtout quand on est dans les épreuves. Et en fait, vous avez dit très justement qu'il y avait une présence discrète, oui. Mais je me demande, enfin moi c'est ce que je vis un peu, ce que j'ai vécu plusieurs fois et que je vis et que je vivrai encore certainement, c'est que je me dis, ah, Dieu n'agit pas dans le sens que je veux. Ah ben oui. Et là, ça nous fait rentrer dans une réflexion, j'allais dire, qui nous dit « Ah, le chemin que l'Éternel veut pour moi n'est pas celui que je veux ou que j'ai choisi ou dans lequel je suis. Donc, il faut que je change. » Sauf que je n'ai pas envie de changer, je reste à moi. Vous avez tous compris. Donc, je veux dire, il y a aussi quelque part dans cette question, par exemple, de Jésus, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?»« Qu'est-ce que je fais ? Je n'ai rien fait. » Et tout. Bon, sauf que si Jésus n'était pas mort, on n'en parlerait pas aujourd'hui. D'accord, hein ? S'il était revenu à Nazareth, on n'en parlerait pas. Bon, mais il y a en même temps dans notre vie à nous d'aujourd'hui, moi c'est quelque chose que je vis profondément, je dis, ah, je me sens toute seule, parce que j'ai un choix à faire, je ne sais pas lequel, et je me sens abandonnée, c'est-à-dire qu'il ne va pas me dire ce qu'il faut que je fasse. Il va me laisser réfléchir, croire, parler à quelqu'un qui va m'aider, enfin, bon, etc. Et tout. Et je crois que ce sentiment d'abandon, c'est quelque chose de très réel aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui. Bon, la Bible est quelque chose de très réel, hein, je veux dire, c'est très humain la Bible, plus que divin à mes yeux. Mais bon, voilà. Et en fait, il y a ce sentiment d'abandon, c'est-à-dire de dire, ah, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse. Enfin, on est devant une foule de questions et il faut du temps hein, pour trouver la solution.
Voilà. C'est le libre arbitre.
Oui, enfin, libre arbitre, je ne sais pas si on est si libre que ça quand on choisit, mais bon, voilà.
Peut-être qu'il veut. Patrick, tu veux répondre.
Un micro.
C'est important, ça. Réponds, là. Tu peux répondre, là, non ?
Non, non. Il n'a pas posé de questions.
Ah, il n'y a pas de questions.
Non, je
ne
sais pas,
mon avis. Ah, d'accord. Je crois que vous posiez des questions.
J'ai comme été plus tard. Alors, pour aller un peu dans le sens de ma collègue, mais un peu différemment,
Il y a deux façons d'entendre ce psaume 22 dans la bouche du crucifié. Soit il y a ce sentiment d'abandon total, et pour les chrétiens, de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu fait par l'expérience de la détresse humaine la plus profonde, ça c'est une interprétation. L'autre interprétation étant de dire que, en disant le premier vers du psaume, il fait allusion à l'ensemble du psaume. C'est-à-dire passer par l'abandon et le secours. Le psaume 22 est construit comme beaucoup de psaumes, c'est-à-dire d'abord une lamentation et une reconnaissance de l'intervention divine et du secours et le témoignage de la confiance. Donc, les deux interprétations ne sont pas forcément exclusives.
Oui, c'est ce qui est marqué sur ce psaume, là on le voit, oui. Que votre cœur renaisse à la vie pour toujours. Donc après le désespoir, il y a l'espoir.
Oui,
dans le même psaume.
Je peux peut-être intervenir après votre intervention parce que c'est très intéressant. En fait, le psaume, il ouvre à une interprétation remarquable d'Abraham Yoshua Heschel, qui est la notion d'insécurité radicale. C'est-à-dire le fait que l'éclipse de Dieu, pour parler comme Martin Buber, le fait que Dieu se retire, le Tzimtzum dont a parlé Patrick, se retire de sa création pour laisser l'homme libre, il le laisse libre, mais dans un état d'intranquillité ou d'insécurité radicale, où il va se plaindre d'être justement abandonné, mais abandonné à sa liberté de choix. Je vais te mettre devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est de ça qu'il s'agit, exactement. Donc il y a, comme vous l'avez remarquablement dit, ce balancement entre le sentiment d'insécurité radicale, d'abandon, d'intranquillité, de peur de sa propre liberté, mais en même temps, cette promesse étant messianique, de toute façon, si tu fais ce qu'il faut, si tu respectes les mitzvot, si tu gardes l'espérance et la foi, de toute façon, tu me rejoindras dans les temps messianiques. Voilà, il y a cette idée-là. Mais si on méconnaît l'idée qu'au fond, Dieu s'est retiré, s'est éloigné de sa création, justement dans un don absolu de liberté à l'homme, liberté de choix, on ne peut pas comprendre cette notion d'abandon. Il n'y a pas de reproche dans cette histoire. Il y a cette idée qu'au fond, être libre, c'est important de le dire dans cette période qui sépare Pessah, Pâques, la libération, et l'acceptation de la Torah au Mont Sinaï. Non, il n'y a pas de liberté totale. La vraie liberté, c'est d'accepter le jour des mitzvot, c'est d'accepter un comportement éthique, c'est d'accepter un ensemble de lois. C'est ça la vraie liberté. Et c'est ce que ce psaume de nous dit. C'est ce qu'il rend si bon.
Il a été ses responsabilités, c'est ce que disait notre ami Barthélemy quand c'était un de ses points forts de sa vision des choses.
Patricia. Avec cette terrible expérience de l'abandon, ça nous amène peut-être à travailler sur nous-mêmes. Et c'est le prix de la liberté. C'est-à-dire c'est en étant abandonné qu'on est contraint de faire face à l'épreuve et de grandir et de devenir peut-être même indépendant et souverain. On avait parlé aussi de la maman ou le père. La maman doit abandonner son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, pour que l'enfant puisse grandir. Donc dans l'abandon, c'est un temps de processus d'autonomie. Enfin, je ne veux pas faire trop de psychologie.
Et de création.
Et de création, c'est-à-dire.
L'histoire des nuages parents qui vont donner des plantes, qui vont pousser, qui vont croître, et c'est la vie. Quoi. C'est...
Donc on pourrait presque dire que l'abandon est incontournable. On a tous vécu des moments différents où on a eu la sensation d'un abandon, mais qui a pu certainement nous rendre un peu plus autonomes et indépendants.
Et ceux qui ne sont pas abandonnés n'ont pas leur vie entre l'homme. Hein.
Absolument.
Donc, vous avez entendu, il faut être abandonné pour pouvoir donner du sens à notre vie. Voilà, ça c'est tout à fait... Voilà.
Ce que je voulais dire, et je rejoins évidemment Eliane et Albert, c'est que la Shoah a été un abandon inexcusable. incompréhensible, irréparable, irrattrapable. Et ça reste un des plus grands mystères de l'humanité. Et ça reste une question qui n'a pas de réponse, qui n'aura jamais de réponse. Et que chaque juif, en tout cas, et les non-juifs aussi, on pourra se la poser toute notre vie. Il n'y a pas de réponse. Et je trouve que les propos du rabbin Wasserman, enfin pour moi, sont absolument insupportables. Il n'y a pas de rachat de quelque faute que ce soit par la Shoah, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas d'expiation de quelque faute que ce soit par la Shoah, qui est une, enfin, c'est plus qu'une anomalie, c'est un délire. Et ça, c'est un événement qui est tel que on ne pourra jamais totalement régler, si on peut dire, nos comptes avec Dieu, s'il existe. C'est quand même une immense interrogation. Et ceux qui disent, eh ben c'est parce qu'ils ont fait des fautes, c'est parce qu'ils se sont trop éloignés de la religion. Non, tout ça, ça ne tient absolument pas. Et on ne devrait plus entendre ces propos-là dans la bouche de quelques rabbins que ce soit, parce qu'il y en a qui le disent encore, ce qui à chaque fois me met dans un état, je veux dire, second. Et quand j'entends dire ça, je quitte la salle dans laquelle je me trouve, parce que c'est insupportable.
Tout à fait d'accord. Alors, cette question qui se pose, où était Dieu pendant la Shoah, c'est une question qui a préoccupé la plupart des penseurs juifs. Et il faut absolument que chacun d'entre vous lise le petit opuscule de Hans Jonas qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz » où il pose cette question. Et la réponse de Hans Jonas, qui est un philosophe remarquable, c'est assez extraordinaire parce qu'il fait un saut dans le temps. Il va reprendre une des hypothèses spinoziennes puisqu'il parle de discontinuité de Dieu, en fin de compte. C'est comme ça qu'il explique l'absence de Dieu à ce moment-là. C'est assez terrifiant. J'avoue que moi, je ne le suis pas sur ce terrain-là. Je pense surtout que, au fond, malheureusement, les persécutions contre les Juifs font partie, justement, de ce choix entre le bien et le mal, de la liberté absolue de l'homme, de bien ou de mal faire. On est à la pointe extrême du mal, là, dans cette question-là. Mais pour Hans Jonas, il y a une discontinuité de Dieu. Livre à lire, Patrick, absolument.
Ah oui, il y a un gros pointillé.
Il y a Gérard.
Gérard, pardon.
Ah, il voulait parler.
Non, je
ne
vais pas parler.
Oui, c'est pas grave. Il a coupé ici.
Bon.
Merci beaucoup.
Merci.
J'aime bien tes colères.